Le meurtre d'Élodie Kulik ou le combat d'un père, épisode 3. Dans son joli jardin, à l'arrière de sa maison de briques rouges de Violaine, village du Pas-de-Calais, Jackie Kulik cultive des kiwis, des groseilles, des pêches, des figues, des poires. Il a la main verte, Jackie. Et puis, dans ces moments-là, il pense moins aux drames qui ont jalonné sa vie. La mort tragique de son père, un mineur d'origine polonaise, dans un accident de mobylette, alors qu'il n'avait que 13 ans. Puis, trois de ses enfants et son épouse. Cela fait 17 ans que sa fille Élodie a été sauvagement tuée. Jackie avait 51 ans, il en a aujourd'hui 68. Il a appris qu'avec la justice, il fallait s'armer de patience. Le meurtre d'Élodie est devenu un cold case, comme on dit. Pour tromper sa solitude, il peut compter sur Yvonne. Elle est veuve, ils se connaissent depuis toujours. Yvonne et Jackie sont devenus des amis. Alors, quand Jackie lui a proposé de venir s'installer chez lui, Yvonne a dit oui. À deux, la peine est moins lourde à porter. Vous écoutez Homicide, je suis Caroline Nogueras. Au nom de sa fille, Jackie Kulik n'a jamais rien lâché. Après 10 ans d'enquête de gendarmerie et 6 années d'instruction, jalonnées de multiples recours de la défense, le procureur a décidé de renvoyer Willy Bardon, 46 ans, seul suspect encore en vie, devant une cour d'assises. Ce 20 novembre 2019, son procès pour enlèvement, séquestration, viol et meurtre d'Élodie Kulik s'ouvre devant les assises de la Somme. 3 semaines d'audience sont prévues, ce qui est particulièrement long pour des assises.
Depuis 17 ans, Jackie Kulik s'est juré de retrouver l'assassin de sa fille Élodie et de le faire comparaître devant la justice.
Aujourd'hui, c'est le grand jour, pour moi.
Qu'est-ce que ça fait d'être là, monsieur, aujourd'hui, dans cette cour d'assises ?
Un grand soulagement. Hein, c'était un combat que j'ai mené depuis plus de 17 ans.
Le jour se lève à peine. Un épais brouillard refuse de quitter le ciel de la ville d'Amiens. Malgré le froid, il y a une agitation peu commune aux abords du palais de justice. De nombreux badauds, des journalistes, 80 au total, ont déjà envahi la salle des pas perdus du tribunal de grande instance. Certains reporters suivent l'affaire depuis ses débuts, comme Georges Charrière, du Courrier Picard. C'est son confrère, Tony Poulain, qui a pris sa relève, car Georges est à la retraite. Il est venu en ami pour soutenir Jackie. Oui, Jackie est devenu un ami. Il faut dire que la personnalité de l'ancien facteur impose le respect. La longévité de son combat est exceptionnelle. Tous ceux qui croisent sa route sont bouleversés par la personnalité de cet homme. Pour certains, il est un héros. Entouré de son fils Fabien, de ses proches, des anciens copains d'Élodie, des membres de l'association Angélique, il tente de se frayer un chemin entre les caméras et les micros qui se tendent. Il a amené avec lui le portrait de sa fille, le grand, celui qu'il présente à chaque interview. Élodie a les cheveux noués en chignon, avec 2 petites mèches blondes qui entourent son visage. Elle porte une tenue habillée. Elle semble parler devant un micro. L'accusé, Willy Bardon, comparaît libre. Dans la salle d'audience, il s'installe à côté de ses avocats. Il a vieilli, son corps s'est épaissi et son crâne dégarni. Il risque la réclusion criminelle à perpétuité. Maître Stéphane Dacot, avocat de Willy Bardon.
Quel état d'esprit ce matin ?
Lui, il est extrêmement stressé parce que c'est pas évident de comparaître devant une cour d'assises. On s'adresse à des hommes et des femmes qui peuvent être influencés éventuellement par ce qui se dit. Il faut pas être pollué, il faut pas être influencé par tout ce qui s'est dit à l'extérieur. J'espère qu'ils vont être en capacité de se mettre dans ces conditions.
Rarement, dans un procès d'assises, on a vu autant de pièces de procédure. 12 000 au total. Répertoriés dans des dossiers blancs sanglés qui constituent un véritable mur. Comme dans un musée, des pièces à conviction sont exposées au public derrière une vitre épaisse. Parmi eux, il y a une cassette. C'est la bande sonore de l'appel d'Élodie Kulik aux pompiers la nuit de son meurtre. Pendant 3 semaines, 47 témoins vont défiler à la barre. Comment va se dérouler ce procès ? Quelle sera l'intime conviction des jurés, ces 9 personnes tirées au sort dont dépend la vie d'un homme.
It's Kaylee Cuoco for Priceline. Ready to go to your happy place for a happy price? Well, why didn't you say so? Just download the Priceline app right now and save up to 60% on hotels. So whether it's Cousin Kevin's Kazoo Concert in Kansas City, go Kevin! Or Becky's Bachelorette Bash in Bermuda, you never have to miss a trip ever again. So download the Priceline app today. Your savings are waiting.
Go to your happy place for a happy price. Go to your happy price, Priceline.
Pour parler de ce procès d'assises exceptionnel, je suis en ligne avec Catherine Siguré. Bonjour Catherine.
Bonjour.
Vous êtes l'auteur d'un livre qui vient de sortir aux éditions Les Presses de la Cité, L'affaire Élodie Kulik ou Le combat d'un père que vous avez écrit avec Jacky Kulik. Catherine Siguré, avant de parler du procès, est-ce que vous pouvez nous raconter les circonstances de votre rencontre avec Jacky Kulik et puis pour quelles raisons vous avez voulu écrire un livre sur son combat ?
Alors moi, ça faisait une quinzaine d'années à peu près que je suivais l'affaire, enfin en gros depuis même le début. Simplement, j'avais pas encore pris contact avec Jacky et je n'ai pris contact avec lui qu'après le second procès, en fait, quand il y a eu le verdict. Et moi, c'est quelqu'un que j'avais toujours admiré parce que je savais que l'enquête continuait vraiment grâce à lui et grâce... à la pression, mais je dirais mesurée, mais qu'il mettait sur les enquêteurs, les magistrats, etc. Et quand je dis pression, c'était vraiment une attitude intelligente d'expliquer qu'il était encore là, qu'il ne lâchait pas, qu'il restait vigilant, et en même temps, tout en leur faisant confiance et en laissant le temps au temps, parce que le temps de la justice est très long. Mmh. Donc, c'est quelqu'un que j'avais toujours admiré. Et quand la première interview, c'est après le second verdict, et moi, il y avait une phrase de lui qui m'avait marqué. Il m'avait dit « On me dit que j'ai gagné, mais j'ai tout perdu. » Et je trouvais que cette lucidité et cette compréhension qu'un verdict, en fait, ne rachète rien. C'est-à-dire que malheureusement, ça ne ramène pas les gens. Et l'absence de haine qu'il y avait, c'était remarquable. Et je me suis dit, là, il a vraiment quelque chose à transmettre quoi, à tous les justiciables, je dirais, même si tout le monde n'est pas... se retrouve pas mêlé à une affaire de meurtre où il va être partie civile, mais on a tous des combats et je trouvais que sa façon d'aborder le combat était un modèle pour tout le monde, quoi.
En tous les cas, il accepte de faire ce livre avec vous. Et là, on va parler du premier procès d'assises. Je précise que vous n'y étiez pas, mais que vous avez interviewé énormément de protagonistes qui, eux, y étaient, afin de dépeindre ces quelques jours d'assises. Alors justement, on va parler du premier jour qui est consacré à la personnalité de l'accusé, Willy Bardon. Quel portrait est dépeint très vite de cet homme ?
Willy Bardon, il a beaucoup choqué les gens, aussi bien les enquêteurs que les proches de Jacky, que des simples citoyens venus assister au procès, parce que c'est quelqu'un d'assez brutal, c'est quelqu'un qui a des méthodes un peu rustiques, aussi bien dans son quotidien de voisin que dans son rapport aux femmes. Et ça passe très, très mal, quoi. C'est quelqu'un où sa personnalité plaide contre lui, malheureusement. Mmh. Ce que ne comprend pas de souligner ses avocats, hein, mais sa personnalité plaide contre lui, parce qu'effectivement, ce n'est pas quelqu'un qu'on a envie de côtoyer, quoi. Mmh.
Ce n'est pas le genre idéal, c'est sûr. Le procès dure 3 semaines, et puis vient le jour de l'audition de Cathy, l'ex-compagne de Grégory Viard, le violeur d'Élodie, celui qui est décédé un an après le meurtre de la jeune femme dans un accident de voiture. Et c'est un témoignage très attendu, c'est ce que vous racontez dans votre livre. Pour quelles raisons il est tant attendu, ce témoignage ?
C'est un témoignage attendu parce qu'il y a beaucoup de choses troublantes. Elle a même failli être inculpée également. D'abord, on a retrouvé un ADN partiel qui pouvait être le sien sur un emballage de préservatif qui était ce qu'on a retrouvé sur les lieux du crime. Alors, elle s'en est tirée par une pirouette assez étrange en disant c'est parce que je les touchais, parce que je ne voulais pas qu'ils s'en servent, s'ils me trompaient. Enfin, un truc qui tenait absolument pas debout, sachant que ça pouvait pas leur servir pour eux, puisqu'elle, elle était enceinte au moment des faits. Donc, il y a eu cette histoire de on s'est demandé si elle était présente sur les lieux. Bon, après, les enquêteurs ont jugé que non. Mais ensuite, elle a beaucoup côtoyé le tandem de son compagnon et du fameux Willy Bardon, de l'accusé. Et elle explique le rapport qu'il y avait entre eux. Le plus jeune, qui était son compagnon, tentait un peu d'épater Willy Bardon, qui est un peu comme un chef de meute, quoi.
Un grand frère.
Ouais, grand frère dans le style mauvais genre, dans le genre bande malfaisante, mais pas un modèle, mais c'est quelqu'un qui est très dominateur. Et en fait, Grégory Viard, qui est un petit gars plus frêle, enfin plus enfant, etc., il essaie de l'épater, quoi.
En tout cas, c'est ce que raconte Cathy.
Voilà, c'est ce que raconte Cathy. Et par ailleurs, Cathy avait porté plainte contre Grégory en affirmant qu'il l'avait dit « je vais te brûler, te violer, etc. » comme les autres femmes, qui était une déposition qu'elle avait faite dans une gendarmerie, qui n'a pas été reliée à l'affaire Élodie et qui peut effectivement sembler curieuse. C'est-à-dire que soit il lui a dit ça parce que ça lui rappelait quelque chose de concret qu'il avait vécu, soit il était en tout cas hanté par le crime, ça c'est sûr.
Est-ce que vous pouvez expliquer ce qui s'est passé ?
Il y a deux choses, c'est qu'elle est réellement menacée par Grégory et qu'elle s'envoie ensuite des lettres anonymes à elle-même qui évoque le crime. Donc, en fait, on ne sait pas si c'est des choses qui lui a dites, alors, ce qui est assez possible parce qu'il a souvent évoqué le crime par ailleurs, notamment dans des cafés, à des comptoirs de bistrot, etc. Et elle s'est envoyé des lettres anonymes qui donnent des détails du crime qui sont effectivement dans les journaux, mais c'est pour le moins troublant que ces deux-là soient hantés par le crime, quoi. Alors, ce qui est très possible aussi, c'est que elle n'a effectivement pas été là, de toute façon, c'est la vérité judiciaire, mais qu'elle se soit doutée de quelque chose, c'est-à-dire que sans doute, c'est une nuit où il est rentré tard, où tout le monde dit que par la suite, tous les deux, Willy Bardon et Grégory, ont changé d'attitude, sont devenus différents. Grégory s'est beaucoup alcoolisé l'année qui a suivi la mort d'Élodie. Ensuite, il est mort dans des circonstances troublantes qui ressemblent de très fort à un suicide. Et il y a beaucoup de choses, en fait, où sans doute que Cathy a perçu des choses. Et ensuite, son témoignage est aussi attendu puisque elle reconnaît la voix de Willy Bardon quand on fait écouter la fameuse bande sonore de l'appel au secours d'Élodie.
Et elle est catégorique. Je précise que Grégory Viard, il est mort dans un accident de voiture, mais en effet, dans des circonstances un peu étranges, qui fait peut-être penser à un suicide. Vient ensuite ce moment si difficile, celui de l'écoute de l'enregistrement de 26 secondes de l'appel d'Élodie aux pompiers le soir de son meurtre. Des casques ont été distribués aux jurés, à la défense et à la partie civile pour entendre au mieux ces quelques secondes effrayantes. Comment réagit le public à l'écoute de cet enregistrement ?
Alors, c'est à peu près la première chose dont tout le monde m'a parlé, c'est-à-dire que ce soit les enquêteurs, les juges, les personnes qui ont assisté au procès ou la famille de Jackie, tout le monde m'a dit « Ah, le procès et l'appel au secours ». C'est quelque chose qui les a mais traumatisés, au point que moi, j'ai eu l'occasion d'écouter la bande et me fiant à vraiment 100% des gens qui disaient qu'ils en avaient rêvé des nuits, je ne l'ai pas fait. Et je crois que c'est quelque chose qui a très fortement impressionné les gens, parce qu'à défaut de reconnaître la voix de Willy Bardon, on entend évidemment les dernières secondes de quelqu'un, et surtout de quelqu'un qui n'appelle pas au secours pour demander de l'aide, mais qui appelle en sachant qu'il va mourir. Mmh. Tout le monde a témoigné de ça. C'était vraiment la voix de quelqu'un qui voyait la mort arriver, quoi.
Terrible. Il y a ensuite le témoignage du père, Jackie Kulik, ce père héroïque qui n'a jamais rien lâché. Il vient raconter, lui, qui était sa fille Élodie. D'ailleurs, il a toujours ce portrait de sa fille à ses côtés. Il souhaite lui redonner de la vie, quelque part. Comment on peut expliquer ce témoignage à la barre ?
En fait, ce qui est formidable, c'est que Jackie, il redonne effectivement vie à sa fille, et il en dresse surtout un portrait qui résume très bien la fin, en disant finalement, elle avait tout ce que vous n'avez pas. Et vous l'avez tué à cause de ça. Et je crois que c'est très vrai, quoi. C'est que ce soit Willy Bardon ou non, hein, je rappelle que l'affaire est en cassation. Donc, mm-hmm. En tout cas, Grégory Viard et les types avec qui il traînait, et la bande d'une façon générale, ce sont des gens qui sont dans la haine des qualités qu'ont les autres, ce qui est quand même assez formidable, et surtout une envie de profaner l'innocence, la gentillesse, la douceur, la beauté. C'est quelqu'un de très délicat, il le dit, très marrante, très positive. Enfin, d'ailleurs, c'est ce qui a un peu désespéré les enquêteurs au départ, c'est qu'ils se disent, bah, dans la vie de la victime, il y a forcément quelque chose, elle s'est embrouillée avec des gens, ou bien elle est un peu ceci, un peu cela, enfin… quelque chose qui leur donne un fil à tirer. Là, ils n'ont aucun fil à tirer parce que c'est unanime.
C'est vrai, c'est une femme qu'on dirait parfaite. Vient ensuite le temps des plaidoiries, celle de la défense de Willy Bardon, qui veut absolument montrer qu'il a beau être un salaud, si je puis dire, avec les femmes, cela ne fait pas de lui un coupable. Et puis, une fois de plus, ils estiment qu'il n'y a rien de concret, hormis cet appel contre leur client, un appel où, je précise, on n'entend que quelques secondes, hein, à peine une ou deux ou trois secondes, les voix des hommes. Et puis, il raconte aussi les ratés de l'enquête. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus ?
Ce qui a été souligné, c'est qu'il y a un enregistrement qui n'a pas fonctionné d'une garde à vue. Je dirais que c'est assez marginal et d'autant plus marginal que finalement, c'est arrivé récemment dans le droit. Pendant très longtemps, les gardes à vue n'ont pas été enregistrées. Et puis, il y a des gens, enfin la défense a reproché à l'un des adjudants qui l'a assez mal pris d'avoir vraiment enquêté à charge, ce qui évidemment n'est pas mon sentiment, parce que le moins qu'on puisse dire, c'est que pour une enquête bâclée, le fait qu'elle ait mis 20 ans, ça me semble quand même un peu long.
C'est sûr, c'est vrai.
Voilà. Je pense qu'on ne peut pas dire qu'ils ont essayé de faire au plus vite et au plus simple.
Surtout quand on sait le nombre d'écoutes qu'il y a eu, le nombre d'auditions, le nombre de prélèvements ADN. Après 17 ans d'enquête, en tout cas 3 semaines d'audience et 5 heures de délibéré, le verdict tombe. Willy Bardon est condamné à 30 ans de réclusion criminelle avec 22 ans de sûreté pour l'enlèvement, séquestration suivie de mort, ainsi que viol en réunion. Les jurés sont encore plus sévères que le parquet qui n'avait pas retenu le viol. Jackie et son fils Fabien ont enfin le sentiment que la justice a été rendue à Élodie. On écoute Jackie Kulik émue à la sortie de la salle d'audience.
Justice est rendue à Élodie. Et je me pourrais aller voir demain matin, demain après-midi sur leur tombe et puis leur dire que j'ai fait mon travail.
Sauf que, énorme coup de théâtre, alors que le verdict vient d'être rendu, Willy Bardon tente de se suicider. Écoutez à nouveau le reportage de France 2 du 7 décembre 2019.
Évacué sur une civière, Willy Bardon quitte en urgence la cour d'assises d'Amiens. Il vient de tenter de se suicider. Tout s'est passé quelques instants plus tôt à l'énoncé du verdict. Dans le box des accusés, l'homme de 45 ans comparé libre, il avale soudain une gélule.
Alexandre Debossère, procureur de la République d'Amiens.
Il a ingéré un produit qui s'appelle du thémique, qui est un pesticide interdit à la commercialisation, sauf quelques usages très précis, et qui est un poison pour les animaux comme pour les humains, et qui provoque notamment des conséquences importantes sur le plan cardiovasculaire et sur le système nerveux.
Catherine Siguré, on vient de l'entendre, Willy Bardon a avalé des pesticides, une fiole de pesticides pour mettre fin à ses jours. Comment est-ce possible ? Comment a-t-il pu entrer avec ce poison dans la salle d'audience ?
Alors, on pense que, en fait, c'est un poison qui est un produit phytosanitaire, si j'ai bien compris. On pense qu'on a pu lui passer au parloir et que c'est quelque chose comme un peu une poudre, donc c'est assez invisible. Mais bon, comme le dit Jackie Kulik, le meilleur endroit quand même pour se suicider, c'est en public avec 90 personnes dans un centre-ville avec. Enfin, vous voyez, c'est quand même.
Il a envie de marquer le coup là. Il se dit, c'est.
Oui.
Vous n'aurez pas.
Oui. C'est un endroit où il est quand même assez certain d'être secouru dans de brefs délais. Oui. Et comme dit Jackie, dont l'épouse est morte aussi de l'absorption de l'endroit, enfin, qui lui a fait faire un coma pendant des années, quand on veut mourir, en général, on y parvient. En l'occurrence, il aurait mieux valu le faire dans le silence de sa cellule que dans un palais de justice.
En tout cas, a-t-il une réaction, lui, Jackie Kulik, quand il apprend que le meurtrier, alors présumée, on est obligé de dire ça, mais le meurtrier de sa fille souhaite mettre fin à ses jours comme ça dans une salle.
Jacky Kulik n'est pas inquiet du tout, en fait, parce qu'il est d'abord sous le choc du verdict, qu'ensuite tout le monde ne comprend pas, y compris ses avocats à Willy Bardon. Personne ne comprend très bien ce qui s'est passé, enfin, personne ne s'inquiète vraiment sur le moment. Évidemment, il est secouru, etc. Mais on se dit, il n'est pas en danger, il a fait un geste malheureux, voilà. Donc, Jacky reste complètement serein et surtout, il n'est pas dupe, on se dit, voilà, il se dit, il est probable qu'il ne va pas mourir, quoi.
En tous les cas, il a vu juste, car 24 heures après son hospitalisation, Bardon est hors de danger, il va rester quelques jours à l'hôpital. Ses avocats, eux, vont faire appel. C'est donc un autre procès qui va avoir lieu en appel devant les assises de Douai en 2021. On en parlera avec Jacky Kulik dans l'épisode 4. Merci beaucoup, Catherine Siguré, d'avoir accepté mon invitation. Je rappelle le titre de votre livre, L'affaire Élodie Kulik ou le combat d'un père, paru aux presses de la Cité. J'invite les auditeurs qui veulent en savoir plus sur cette affaire à lire votre livre. Merci beaucoup, Catherine.
Merci beaucoup.
Dans le dernier épisode, nous parlerons du procès en appel de Willy Bardon. Je serai en ligne avec Jacky Kulik, le père d'Élodie. Il sera en effet mon invité. Il nous racontera comment il va aujourd'hui, comment il a vécu ses 20 années de calvaire et où en est la justice aujourd'hui. Ne ratez pas cet ultime épisode sur l'affaire Élodie Kulik avec son père, Jacky Kulik. En attendant, chers auditeurs, n'hésitez pas à laisser des étoiles et des commentaires sur vos applis de podcast préférés.